Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot, hot.
Bienvenue dans Soft Power, magazine des industries culturelles et du numérique de France Culture en direct jusqu'à 20h30. Ce soir, nous allons nous intéresser essentiellement au journal Le Monde, dont je reçois le directeur de la rédaction, Luc Brunner. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Alors avec vous, nous reviendrons sur la couverture de l'actualité récente dans Le Monde. On entrera dans les détails du fonctionnement de cette très grosse rédaction, ses différences générationnelles ou entre le web et le papier. On parlera politique aussi, réseaux sociaux, déontologie, éditoriaux, investigation. Et puis on parlera un petit peu de vous aussi, Luc Brunner, en revenant sur votre parcours. Vous êtes prêt ?
Je suis prêt.
20h, l'invité innovation de Soft Power. Ce soir avec vous, Zoé Sfez, vous recevez l'une des responsables de Bibliothèques sans frontières.
Elle s'appelle Win Cheng Pech, elle est directrice à l'éducation et au contenu de BSF, Bibliothèques sans frontières, qui, si son nom ne le dit peut-être pas assez, est une ONG qui existe depuis 2007, qui mène des actions destiné à enrichir le contenu des bibliothèques, mais surtout à apporter la bibliothèque du 20e siècle, qui n'est pas qu'une bibliothèque, qui est un Fab Lab, qui est un learning center partout, y compris là où il n'y a pas Internet et là où il n'y a pas accès au savoir.
20h10, le club de la presse numérique, nous parlerons du rôle qu'a joué Facebook dans la mobilisation des Gilets jaunes et nous serons pour en débattre avec Séverin Naudet et Gilles Fontaine. Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power ce soir. Émission réalisée par Sonia Leglen avec en régie Jean-Frédéric. Cette émission a été préparée par David Lavaux avec pour les réseaux sociaux Clara Brelot. Vous pouvez l'écouter, cette émission, la suivre sur Twitter au mot-clé Soft Power ainsi que sur Instagram, Spotify, Facebook, LinkedIn en podcast et sur France Culture donc jusqu'à 20h30 en direct. Je commence cette émission par un clin d'œil en vous recommandant un livre, celui d'Alan Wolfe, qui vient de paraître aux États-Unis. Il s'intitule « La politique de la pétulance », en anglais « The Politics of Petulance ». Et si je ne trouve pas ce titre très bien choisi, son contenu est, lui, en revanche, très stimulant. Alan Wolfe est l'un des meilleurs politologues américains. Il raconte le populisme, ce qui fait évidemment écho à Donald Trump, mais aussi à la France de Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, et parfois même de Laurent Wauquiez, ou certains aspects du mouvement des Gilets jaunes, comme l'explique d'ailleurs très bien ce matin dans un bel entretien au JDD Christiane Taubira. Mais revenons au livre d'Alan Wolfe qui raconte l'histoire du populisme, cette pétulance en France, on pourrait dire cette fougue guévariste, molettiste ou boulangiste, exubérante, brusque et désordonnée qui prétend faire politique. La démagogie, nous dit Wolfe, échoue à comprendre la complexité de nos sociétés. Elle apporte des réponses simples à des problèmes compliqués. Le Trumpisme, pourtant, n'est pas nouveau en Amérique. Wolfe en fait l'archéologie en remontant au McCarthyisme, à Nixon ou encore, il y a bien plus longtemps, au président Andrew Jackson, par exemple. Tocqueville disait de lui, je cite Tocqueville, qu'il est un agent des jalousies provinciales, qu'il en a les passions décentralisantes et qu'il est esclave de la majorité. Ces formules tocquevilliennes sont évidemment très belles. On le voit en tout cas, l'immaturité politique que dénonce Wolfe n'a rien de nouveau. En lisant son livre, on pense tout de suite au fameux ouvrage de Richard Hofstadter sur l'anti-intellectualisme ou le style paranoïaque de la vie politique américaine. Héritier de cette tradition, mais aussi de Hannah Arendt, Alan Wolfe cherche les clés de compréhension du phénomène Trump, phénomène qu'il prend, lui, contrairement à beaucoup de chercheurs, au sérieux. Car tout cela, je l'ai dit, existe depuis fort longtemps dans l'histoire politique américaine. Les théories conspirationnistes, par exemple, le populisme, n'ont rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est Nixon à l'heure des réseaux sociaux. C'est McCarthy qui aurait un compte Twitter. L'Amérique n'a jamais vraiment eu de fascisme ni de communisme en tant que tel, mais elle en a des versions autochtones, des modèles hybrides ou abattardis qui ne disent pas leur nom. Pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire politique américaine, ce livre, non encore traduit, est éclairant. Avec cette véritable histoire contre-intellectuelle, l'intellectuel Alan Wolfe retrace la genèse profonde du Trumpisme et son archéologie. Alan Wolfe, The Politics of Petulance, vient de paraître aux presses universitaires de Chicago. L'actualité comme chaque semaine au début de cette émission et ce soir avec notre invité principal, Luc Brunner, directeur de la rédaction du Monde. Et avec vous, Zoé Sfez, pour commencer, on peut commencer sur le traitement des gilets jaunes.
Oui, parce que c'est une question qui s'est beaucoup posée, la question du traitement médiatique des gilets jaunes, notamment à la télévision, s'est beaucoup posée. Il y a un très beau papier qui circule énormément en ce moment, qui est un papier du Monde sur la sociologie des gilets jaunes. Vous avez été un des premiers médias à faire, disons, à relayer des travaux de plusieurs centaines de chercheurs, plusieurs dizaines de chercheurs sur cette sociologie des gilets jaunes. Comment est-ce que une rédaction comme la vôtre commence, ou en tout cas agit, se mobilise pour traiter d'un tel mouvement? Est-ce qu'il y a une réunion? Est-ce qu'il y a des moments spéciaux dans les conférences de rédaction? Comment est-ce que ça s'articule et ça s'organise?
De façon très modeste au début, puisque quand naît un mouvement social de ce type-là, évidemment, personne n'a la fin de l'histoire, et nous ne l'avons pas encore. Donc, au début, ça apparaît de façon très simple, à travers des propositions de reportage, par exemple, de la part de nos journalistes qui observent des mouvements sociaux, notamment sur les réseaux sociaux, puisque c'est un mouvement qui a une originalité par rapport à d'autres mouvements, d'être en partie né sur Facebook. Et donc, progressivement, au fur et à mesure, on voit naître une mobilisation, on sent qu'il y a un écho. On en voit des signes se multiplier dans la société française.
Et vous l'avez sous-estimé au début, vous pensez ?
Oui, je pense comme tout le monde, parce qu'une partie de ce mouvement était invisible, en tout cas, plus précisément, visible uniquement sur des groupes de réseaux sociaux.
Notamment il était
sur
sans
Facebook.
Jeu de mots hors des radars.
Il était hors des radars, oui, tout à fait. Après, les radars, heureusement, fonctionnent, puisque quand on voit ces personnes sortir de l'anonymat, sortir de l'invisibilité du groupe Facebook ou sur lequel eux partagent des informations et une partie de leurs commentaires. Là, à ce moment-là, on peut mobiliser la rédaction et progressivement mettre de plus en plus de journalistes pour essayer de travailler et de comprendre un mouvement dont on n'a évidemment pas encore perçu tout à fait l'ampleur et l'originalité.
Et justement, alors, vous savez qu'aujourd'hui, on va y revenir évidemment sur la grande pluralité des manières de traiter l'info dans le monde. J'imagine que sur les grandes journées de manifestation, vous avez publié énormément de vidéos. Est-ce que, par exemple, les journalistes qui vont faire de la vidéo sont les mêmes que ceux qui à la fois font du reportage, c'est-à-dire vont écrire le papier ensuite? Il y a aussi eu plusieurs lives du Monde, ça on va en parler, c'est évidemment un outil très important. Comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous coordonnez? Est-ce que vous avez une réunion? On sait que c'est ce qui s'est passé sur MeToo, on va en parler peut-être tout à l'heure, mais est-ce que vous avez une espèce de cellule comme ça qui se dédie uniquement à ce traitement-là? Jour comme par exemple les samedis qu'on a connus.
Alors il n'y a pas une cellule qui a été mise en place sur les gilets jaunes comme on l'a fait par exemple sur MeToo, et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Pour le coup, c'est pratiquement l'ensemble de la rédaction qui est mobilisée. Ça peut être des journalistes du service politique, du service économie, du service société, en fonction de la nature de l'information, qui vont être mobilisés pour donner la parole à des sociologues, à des économistes, pour faire du reportage sur le terrain, sur les ronds-points, par exemple, pour couvrir des manifestations. Donc, on va mobiliser de façon assez large un nombre important de journalistes, en mobilisant évidemment un peu plus de journalistes lorsqu'il y a des manifestations, puisque c'est des moments sociaux importants dans la démocratie française, la manifestation. Et par exemple, samedi dernier, il y a 8 jours, il y avait une trentaine de journalistes du Monde mobilisés sur le terrain à Paris, mais j'insiste, aussi dans des petites villes, dans des grandes villes, à Bordeaux, à Grenoble, à Toulouse, avec l'idée de ne pas simplement raconter la violence qu'il faut raconter, mais de raconter aussi le fond des revendications et des questionnements des gilets jaunes et de ceux qui les soutiennent.
Notamment le papier de Florence Aubenas ce week-end à la une du Monde. Deux autres traitements qui nous permettent éventuellement de comparer ce mouvement. On reviendra sur l'affaire Benalla dans un instant, mais MeToo, Zoé.
Sur MeToo, vous avez d'ailleurs au moment des 1 an, je crois, de cette affaire, publié un très beau papier qui essaie de retracer la manière dont vous avez tenté de couvrir ce mouvement, avec, là pour le coup, je crois, une réunion exceptionnelle et plusieurs profils différents au sein de la rédaction qui, en tout cas, essayent de s'exprimer. Comment est-ce que vous l'avez vécu, cette affaire qui, en fait, est quand même sortie, pour le coup, qui a explosé grâce à la presse, grâce notamment à cet article du New Yorker de Juan Faro. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Comment est-ce que vous avez réparti, disons, les tâches? Et est-ce qu'elle existe encore, cette fameuse cellule MeToo, 1 an après?
Alors, on l'a d'abord vécu un peu avec difficulté. La rédaction a eu un peu de mal à démarrer sur MeToo, pour plein de raisons assez classiques, c'est-à-dire que et c'est assez régulier dans la vie de ce journal. Le service culture va considérer que c'est de l'international, l'international que c'est de la culture, la société que c'est de la culture ou l'international, par exemple.
Donc personne ne veut.
Et donc c'est vrai que c'est des moments où ça peut flotter.
Personne
un
ne
peu.
S'est battu, c'est pas l'inverse. C'est pas la culture qui l'a demandé et l'international qui l'a demandé.
Dans un premier temps, personne ne s'est vraiment battu. Ce qui s'est passé, et qui pour moi est un moment historique dans la vie de cette rédaction, c'est que c'est la génération des jeunes journalistes, notamment issus du web. On a un grand nombre de journalistes qui ont entre 25 et 40 ans, qui travaillent notamment au numérique, qui eux ont mieux senti que nous, et je m'inclus dedans, l'ampleur du mouvement MeToo et au-delà des premières affaires sorties, comment cette affaire allait avoir une onde de choc américaine dans le domaine de la culture, bien de l'au-delà ensuite, et ensuite une onde de choc, je vais dire occidentale, parce que je pense qu'il faut mesurer aussi les
impacts. En même temps, une partie de ces affaires a fait pchit. Les gens n'ont pas été condamnés, souvent, parfois même, les affaires. Donc on a un peu l'impression
En France,
alors c'est pas vrai partout, et par ailleurs, moi je pense qu'il s'agit d'un mouvement dont l'indicateur ne doit pas être seulement la condamnation morale ou pénale d'individus qui auraient eu des comportements pour le coup condamnables. Je pense que le mouvement MeToo, et c'est pour ça que j'ai voulu installer une task force d'une quinzaine de journalistes qui ont travaillé pendant un an, c'est l'idée que si ces phénomènes existent dans le domaine de la culture, du cinéma, ils existent probablement dans
des
secteurs industriels, dans des PME.
Pourquoi
et donc
s'être
il faut
concentré
travailler.
Sur des gens connus et pas les caissières de supermarché ou, alors vous l'avez fait un petit peu sur les infirmières dans les hôpitaux, mais on a l'impression que ça a été autour de noms de gens célèbres.
Alors, on a évidemment cherché des gens célèbres en essayant de voir s'il existait des équivalents à Weinstein en France ou ailleurs. Mais tout de suite, on a voulu raconter, par exemple, le destin d'ouvrière en se disant que quand on est ouvrière employée dans un hypermarché, on est peut-être soumis à des comportements équivalents et moi, à titre perso, je suis très fier qu'on ait fait la une du Monde, par exemple, sur ces ouvrières et ces employés victimes de harcèlement sexuel. Et c'était une histoire notamment autour de la gare du Nord, extrêmement sordide. Et on a voulu travailler dans le domaine de l'université, du monde médical, du monde juridique, des médias aussi, chaque fois qu'on pouvait le raconter, chaque fois qu'on avait suffisamment d'informations, pour tenter de montrer que MeToo est pas simplement l'affaire de quelques hommes, c'est en fait l'affaire d'une société et que derrière, c'est l'inégalité entre les hommes et les femmes qui rééclate à nouveau au grand jour.
Comment est-ce que vous expliquez que cette révélation aux États-Unis ait pu avoir une telle déflagration, alors qu'en France, on a eu, et vous le dites d'ailleurs assez bien dans ce fameux papier, on a eu quand même l'affaire de Denis Baupin avant, on a eu l'affaire des SK avant, et ça n'a pas suscité ce type de mouvement en France. Alors certes, le système judiciaire n'est pas le même en France, et c'est beaucoup plus compliqué ici, parce qu'on est présumé innocent, ce qui a aussi des vertus. Mais comment est-ce que vous expliquez qu'en France, ces affaires-là, qui sont quand même des grosses affaires, notamment l'affaire de Denis Baupin, il y avait un certain nombre de femmes et il ne s'est toujours rien passé, n'est pas suscité ce même type d'élan dans la presse et dans la société.
Alors, il ne s'est rien passé parce que la justice a considéré qu'il n'était pas condamnable. Donc,
une décision de justice sur laquelle on est obligé de faire état. Je pense que vous avez raison, le droit américain et le droit français sont très différents de ce point de vue-là, à la fois sur la façon dont se déroulent les enquêtes et sur la protection du droit à l'image, du droit à la présomption d'innocence des différentes parties. Moi, je pense que s'ajoute un autre phénomène. Je suis assez prudent sur la réalité de l'impact MeToo aux États-Unis, parce que je pense qu'on regarde ce qu'on regarde souvent, nous, Français, quand on regarde les États-Unis, on regarde les grandes métropoles universitaires et sur lesquelles, probablement, il y a un soutien de MeToo. Dans le même temps, je n'oublie pas que les États-Unis ont élu Trump en toute connaissance de cause. Alors, on pourra discuter
de l'élection de
Trump,
mais
y compris de soupçons de comportement...
y compris avec des prostituées,
avec des femmes.
Si tout ça est confirmé.
Voilà, si tout ça est confirmé, il y a des enquêtes en cours. Mais donc, je suis assez prudent sur le regard qu'on porte sur les États-Unis et sur le fait de ne pas surestimer la réalité du mouvement MeToo aux États-Unis. Il est réel dans les grandes villes universitaires. Je suis bien plus mesuré sur le reste des États-Unis.
Un mot sur l'affaire Benalla. J'interrogeais un de vos collaborateurs. Il y a aussi une critique interne qui dit notamment on a fait d'une affaire d'été une affaire d'État. Vous êtes revenu vous-même dans un long papier pour analyser d'ailleurs les réactions parfois assez violentes des lecteurs. Quel jugement vous portez quelques mois après, là aussi, où il ne s'est rien passé, en tout cas pour l'instant, judiciairement, juridiquement, de l'affaire Benalla.
Alors, d'abord, moi, je trouve très bien qu'au sein d'une rédaction s'expriment des avis contraires, et je le défends vraiment. C'est-à-dire que dans cette rédaction, on puisse critiquer nos décisions au fil du temps, le faire publiquement au sein des conférences de rédaction. J'y tiens vraiment. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle dans la vie interne de cette rédaction. Sur le fond, tout ce qui s'est passé depuis cette période montre qu'il ne s'agissait pas d'une affaire d'été, en tout cas. L'ensemble des répercussions politiques, jusqu'à la démission d'un ministre de l'Intérieur, alors pas uniquement pour l'affaire Benalla, mais on a vu que ça l'a fragilisé.
Il voulait aussi devenir maire de Lyon.
Voilà, il avait senti peut-être le vent du boulet avant d'autres. Moi, je reste convaincu que cette affaire, elle est majeure. D'abord, on l'a vu encore récemment sur les questions du maintien de l'ordre. Un conseiller de la présidence qui est suspecté d'avoir commis des actes de violence dans une manifestation, c'est un
alors
fait extraordinairement grave.
Alors qu'il est en vacances un 1er mai où il n'a rien à faire là. Ouais.
Et que cette manifestation vise à contester la politique du président.
Mais ça, personne ne conteste. Personne d'ailleurs n'a critiqué l'article remarquable d'Ariane Chemin lorsqu'elle lance. Ce qui est plus discuté, c'est 250, peut-être plus aujourd'hui, articles sur cette affaire pendant l'été, au mois de septembre.
Oui, mais souvenez-vous, on est dans un moment où la révélation par Ariane Chemin de cet épisode provoque d'abord l'ouverture d'une enquête préliminaire qui se transforme en information judiciaire, qui débouche par ailleurs sur plusieurs enquêtes parlementaires et sur une série de révélations extrêmement importantes. Au-delà du fait lui-même, qui est, je l'ai dit, majeur, il y a eu volonté de dissimulation de la part du plus haut niveau de l'État, en l'occurrence la présidence de la République. Il y a eu des dissensions et des tensions majeures exprimées en public devant les caméras et les députés et les sénateurs des commissions d'enquête entre la préfecture de police, le ministère de l'Intérieur, l'Élysée. C'est un moment démocratique extrêmement grave et il y a des soupçons de manipulation, de volonté de manipulation, notamment sur les questions de vidéosurveillance par l'Élysée. Donc, affaire d'été, tout montre qu'on n'est pas dans une affaire d'été. Affaire d'État, il peut y avoir débat. Et moi, je trouve ça plutôt sain qu'on se pose la question de quelques mois plus tard, toujours de savoir si c'est une affaire d'État.
Pour terminer cette introduction sur l'actualité, vous avez fait, d'ailleurs après le New York Times, ce qu'on pourrait appeler des mémoriaux des victimes. Ça a été le cas dans le New York Times après le 11 septembre. Je crois que c'est à ce moment-là que ça a été créé. Vous l'avez fait en France après plusieurs attentats. Est-ce que vous allez le faire après Strasbourg? Et quelle est la logique de ces mémoriaux des victimes? Comment est-ce qu'on fait ça? Est-ce que c'est dur à faire émotionnellement?
C'est très dur. C'est franchement, dans la vie de la rédaction, je suis directeur de la rédaction maintenant depuis 3 ans et demi, un des moments évidemment les plus difficiles. C'est une idée de Sylvie Kaufmann qui avait vu ce que le New York Times avait fait à l'époque et qui, dans la nuit du 13 novembre, 2h du matin peut-être, nous a envoyé un mail en disant « on devrait faire ça ». Et on a pris la décision instantanément. En le faisant, on n'a pas mesuré ce que ça représentait pour les journalistes. On a eu plusieurs dizaines de journalistes qui ont travaillé sur, au final, je pense qu'on doit être pas loin de 200 portraits de victimes, avec une charge émotionnelle énorme, et des journalistes qui ont vécu parfois pour écrire simplement 2000 signes, 2500 signes, c'est-à-dire dans le langage journalistique, des articles très courts, des expériences parmi les plus fortes, les plus difficiles. Et voilà, on a senti que c'était un moment dans la vie de la société, dans la vie de la rédaction particulièrement important.
Pour Strasbourg ?
Pour Strasbourg, on ne s'est pas encore posé la question de la forme. On souhaite faire les portraits des victimes. Sous des longueurs qui n'ont pas encore été déterminées. On a commencé par faire le portrait de cet homme, père de famille, d'origine afghane, et qui est mort dans les rues de Strasbourg, tué de sang-froid par un terroriste qui probablement ne le connaissait pas. Donc on a commencé par ce portrait. On fera les autres portraits dès qu'on aura des éléments de ces familles.
Dans un instant, on va continuer à s'intéresser au journal Le Monde avec mon invité de ce soir, Luc Brunner, patron de la rédaction du Monde. Mais juste avant, et pour clore cette séquence d'actualité de la semaine par une actualité musicale, un mot sur un tout autre sujet. Chicago, la comédie musicale de Broadway, reprise à Paris au théâtre Mogador. Alors l'origine, elle a été montée pour le théâtre en 1926. Chicago n'est devenu un musical qu'en 1975, notamment grâce à Bob Fosse. En 1996, un revival a été créé. C'est cette version qui est reprise à Paris. Le résultat est efficace, d'un grand professionnalisme, bien que sans surprise. On sait un peu ce qu'on va voir et on en a donc pour son argent. Chicago est ce genre de feel-good show qui vous met dans la bonne humeur. Tout est un peu magique, bien léché, joyeux, musicalement jazzy. Et on sort ravi du spectacle en se disant que le divertissement n'est peut-être pas très profond ni très intellectuel, mais c'est sacrément bien fait. Chicago, au théâtre Mogador à Paris jusqu'au 30 juin prochain. C'est pour les petits aussi, pour les grands.
Est-ce que tout le monde est prêt? Envoie!
Plaque ta mèche, sortais-je sur vernis. Yeah. Ouais, faut que ça jazz, un saxo chaud et moi, chante un blues interdit. Ouais, faut
faut que ça jase. C'est parti, pose tes mains sur mon corps. J'ai fait le plein d'aspirine, tout à la roue drugstore. Si tu as le tournis, prends-en tes rétablis. Ouais, faut que ça
jase. Oh yeah! Elle tourne le dos à son passé.
Et maintenant, je suis
Roxy.
En sculpture, 19h20.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Vous êtes dans Soft Power jusqu'à 20h30. Je reçois ce soir Luc Brunner, directeur de la rédaction du Monde et aussi d'ailleurs du Monde.fr, pour un état du monde au moment où le nombre d'abonnés numériques dépasse le nombre d'abonnés papier. Luc Brunner, pour commencer cet entretien, une question paradoxale, personnelle aussi, sur votre relative discrétion. On vous voit peu dans les médias, contrairement par exemple à Christophe Barbier, Laurent Geoffrin, on peut en citer d'autres, François-Olivier Gisbert, ou même à sa grande époque, Edwin Plenel, lorsqu'il dirigeait, comme vous, la rédaction du Monde. Pourquoi cette discrétion ?
C'est un choix personnel. Je pense que c'est une meilleure discipline de vie. J'ai la conviction qu'aujourd'hui, aller participer à des débats sur des plateaux d'émissions télé n'apporte rien à un grand journal comme Le Monde. Je pense que c'est l'inverse, que ça contribue simplement au bruit médiatique. C'est une forme de nivellement par le bas. C'est la garantie d'aller tout de suite sur des polémiques, sur des débats qui sont à la demi-journée ou à la journée. Donc voilà, moi la télé ça m'intéresse pas, très franchement. Je pense que aujourd'hui c'est dans les enjeux du journalisme auxquels nous sommes confrontés, c'est un lieu qui ne permet pas de faire, en tout cas dans les débats, un travail qui soit sérieux.
Donc, il faut du temps aussi, il faut être à son bureau, on peut pas courir, répondre à des demandes qui souvent sont faites au dernier moment.
Oui, et puis par ailleurs je pense que ce sont des logiques de personnalisation, tous les noms prestigieux que vous avez cités. Je pense que quand on va sur un plateau télé, quand on s'appelle Barbier, Gisbert ou d'autres, on se vend soi-même autant que ce qu'on vend sa rédaction. Moi, je pense que la rédaction du Monde est forte parce qu'elle est collective. Elle n'a pas besoin d'une personne qui l'incarne médiatiquement. Au contraire, je pense qu'on est mille fois plus fort quand ce week-end on fait un reportage assez génial de Florence Aubenas, ou qu'on fait quatre pages sur la Centrafrique. Je veux, moi, que le journalisme parle par lui-même et ne choisissent pas la voie de la représentation personnelle. Je pense que c'est totalement daté.
Collective, mais aussi en tandem. Le Monde est dirigé par deux personnes, comme à la grande époque Colombani-Plenel ou à d'autres moments. Vous faites un tandem avec Jérôme Fenoglio. Ça marche comment ce tandem ? Ça fonctionne comment ?
Alors, on a deux fonctions différentes. Il est directeur du journal, donc il a une fonction qui porte aussi sur l'aspect plus stratégique, plus économique de notre vie collective. Moi, je suis dans les cuisines, et donc ça correspond
aussi tambouille.
Dans la tambouille, on va dire, voilà. Et j'aime ça. Je trouve que dans la période dans laquelle on vit, je réfléchissais avant d'arriver à France Culture à tous les événements traversés, le 13 novembre, Nice, le Brexit, l'élection de Trump, la présidentielle française, les Gilets jaunes même, qui sont des moments démocratiques. On est dans un moment où les basculements géopolitiques, politiques, sociétaux, démocratiques, culturels sont assez impressionnants. Et donc, réfléchir à l'information, prendre le temps de lire. Je préfère lire un livre que d'aller sur un plateau télé. Voilà, je pense que la fonction de directeur de la rédaction est une fonction d'animation éditoriale, de questionnement permanent sur notre façon de couvrir l'information, et une fonction d'entraînement d'une rédaction pour que, collectivement, on ait la force et l'énergie de rebondir jour après jour sur les actualités.
Comment est-ce que vous définiriez, non pas simplement le journalisme du Monde, mais le journalisme que vous aimez, vous, personnellement, un journalisme d'intérêt public, un journalisme engagé, un journalisme d'opinion, et quelles sont les références journalistiques qui pourraient illustrer ce modèle ?
Pour moi, c'est un journalisme d'engagement qui est très différent du journalisme d'opinion. Le journalisme d'opinion, c'est la volonté autour d'une idéologie, et le mot n'est pas négatif, ou d'une pensée de construire une représentation du monde. Le journalisme d'engagement, c'est très différent. C'est le fait de choisir de ne pas être ballotté par les courants de l'actualité, de ne pas se laisser simplement entraîner par le courant de l'actualité, mais de chercher à l'orienter, à le construire et à faire émerger des thématiques. Je vous donne quelques exemples. Quand on fait de l'investigation sur l'évasion fiscale, quand on lance des grandes enquêtes sur les Panama Papers, sur les Paradise Papers, sur les Swiss Leaks, on en a fait plusieurs, c'est le fait de considérer que le rapport à l'impôt dans nos sociétés est quelque chose d'absolument essentiel. La contribution, pour prendre un mot ancien, la contribution de chacun d'entre nous à la vie de la société à travers l'impôt, c'est un des actes citoyens démocratiques les plus importants. Et donc quand certains, et notamment les plus riches, y échappent, ça pose un problème démocratique majeur. Donc d'un point de vue journalistique, on pourrait tout à fait choisir de ne pas couvrir ces sujets-là, et plein d'autres médias font ce choix-là. On pense, nous, qu'en choisissant ce genre de thématique, on va permettre d'éclairer une partie du débat public de façon différente.
Donc, vos références et les modèles journalistiques que vous aimeriez
Alors, j'ai une référence, mais qui est très personnelle, qui est à la frontière entre le journalisme et la littérature. D'ailleurs, pour moi, il y a une sorte de révélation personnelle, adolescente, même presque, sur Truman Capote, de sang-froid, avec une sorte de découverte sur l'écriture. Et ce type de récit clinique, je l'appelle comme ça, c'est-à-dire où chacun des détails est travaillé, enquêté, qui pour moi est un moment à la frontière entre le journalisme et la littérature, et peu importe finalement. Donc ça, c'est... Voilà, si j'avais une référence personnelle, ça serait
comme
celle-ci.
Comme modèle de journal, bien sûr pas Le Monde, mais quels seraient ceux qui vous...
Alors, en dehors du Monde, voilà. Très corporate. Non, c'est évidemment les grands journaux anglo-saxons. Par exemple, ce que fait le Guardian sur les questions environnementales est passionnant. Et si j'avais un deuxième thème au-delà de l'évasion fiscale à pousser, ça serait évidemment ce sujet de la rupture climatique et du chaos climatique auquel nous sommes confrontés. Le Washington Post, le New York Times. C'est des journaux qui ont cette force-là, la capacité à mettre dans le débat public des sujets qu'ils jugent importants, et j'en suis évidemment jaloux parfois.
Vous avez eu le prix Albert Londres il y a une dizaine d'années, 2007, pour d'ailleurs votre couverture des jeunes dans la banlieue. On reviendra peut-être sur ces questions, mais il y a d'autres prix Albert Londres, il y a d'autres grandes personnalités dans ce journal. On peut citer bien sûr le nom des grands reporters qui sont célèbres et connus. C'est quoi la rédaction du Monde? C'est une rédaction évidemment vivante. Elle a des courants, des baronnies, des éléphants comme OPS.
Alors des éléphants comme OPS, j'espère que non. Des baronnies, il y en a eu longtemps. C'est une rédaction qui a été traversée par des crises importantes qui correspondaient à la fois à des crises internes au journal et des crises qui étaient valables pour l'ensemble de notre profession. J'ai le sentiment que c'est plutôt apaisé. Alors vous me direz, je suis jugé parti. Donc il faudrait demander à d'autres journalistes. Je pense qu'on est entré dans une période assez différente, liée notamment au fait que la rédaction du Monde s'est beaucoup renouvelée. Avant de venir, je regardais, on a... L'âge moyen de la rédaction du Monde, c'est 45 ans, c'est mon âge.
Et très on proche a... de la moyenne de l'âge moyen des Français.
Oui.
42.
Voilà, on est à peu près dans la moyenne, ça n'est pas calculé exprès, mais dans 45 ans, ce qui pour une rédaction comme celle du Monde est je pense, un des âges les plus faibles de son histoire. Et par ailleurs, je regardais, il y a environ la moitié des journalistes au Monde qui sont entrés au Monde dans les 10 dernières années. Donc, ils n'ont pas forcément la mémoire de cette sédimentation de crises et de conflits interpersonnels qui ont pu exister par le passé. Donc, voilà, je pense qu'il y a eu beaucoup de renouvellement. On a su garder les anciens, c'est hyper important. Je pense qu'une rédaction est forte quand la mémoire est là. Et donc on a fort heureusement des grands anciens et des sages dans la rédaction qui sont aussi capables de nous aider tous les jours. Mais voilà, il y a un mélange de générations, de profils qui est assez vertueux, je pense.
Vous êtes, dites-vous, jugé parti. Alors on a interrogé quelques-uns de vos collaborateurs. Ils notent au fond deux grandes lignes qui traversent quand même cette rédaction. Enfin, en fait, il y a plusieurs lignes. On y reviendra notamment générationnelle, aussi entre le web et le papier, mais sur le plan politique, il y aurait une ligne un peu... Alors comment la définir, c'est difficile, mais diront un peu... Gauche, un peu CFDTiste, un peu, alors parfois intéressé par le macronisme, et puis une gauche peut-être plus à gauche, disons un peu gauchiste, gauchisante, parfois. Comment est-ce que ces deux lignes, si tant est qu'elles existent, dialogue ou est-ce qu'au fond, vous ne les laissez pas s'exprimer toutes les deux avec du coup tout un tas de contradictions qui apparaissent clairement dans le journal lorsque d'un côté, le monde critique le gouvernement lorsqu'il ne relève pas les minima sociaux et dans une autre page, parfois dans le même numéro, il critique le coût du travail et le déficit public.
Il y a plusieurs questions dans la même question, je crois. Oui, il y a des sensibilités différentes d'un point de vue politique. Elles s'expriment par exemple au moment de la conférence de prévision, qui est la conférence hebdomadaire que j'anime, où je commence toujours en posant la question d'un débrief collectif de ce qui a été fait. Il y a parfois des prises de position très critiques. J'ai le souvenir, par exemple, qu'une partie de la rédaction, alors qui correspond peut-être à cette mouvance plus CFDTiste, on va l'appeler comme ça, avait pas très bien vécu le fait qu'au lendemain du premier tour des élections législatives, on avait choisi de représenter sous forme de camembert, donc une infographie très classique, les résultats électoraux. Et on avait fait un choix qui était une première, c'est vrai, où on avait représenté la part de l'abstention. C'était important. On était sur des chiffres d'abstention records pour des élections législatives. Et c'est vrai que pour une partie de rédacteurs, de journalistes du Monde qui était dans un moment d'inquiétude aussi sur l'avenir du pays, il y avait le sentiment que peut-être qu'en faisant cette représentation graphique, on avait tendance à minorer la réalité de la victoire, qui est réelle, remportée par les députés macronistes. Et donc c'était un beau débat, intéressant. C'est comment, quand on fait des choix journalistiques, en l'occurrence c'est un camembert à la une du journal, donc c'est vraiment un graphisme assez simple. Si vous mettez ou pas l'abstention dans ce graphique, vous changez la représentation. Bon, moi je trouve que c'est un beau débat journalistique et les deux réponses sont valables. On peut tout à fait publier ces deux représentations journalistiques à la une. C'est vrai que le sens est un peu différent. Donc ces discussions, ces débats existent. Encore une fois, moi je pense que c'est assez sain.
Zoé. Une question justement, combien vous êtes aujourd'hui à la rédaction du Monde? Combien il y a de cartes de presse et quelle est la proportion des gens qui écrivent ou pas, si tant est que cette distinction soit encore intéressante aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, il y a 460 journalistes en CDI, j'insiste, puisque c'est une rédaction qui a la chance, le privilège de ne pas avoir trop de problèmes de précarité. On a aussi des pigistes et des CDD, mais qui sont aujourd'hui en nombre réduit. Donc 460 journalistes, c'est le plus haut historique dans la vie de ce journal depuis 74 ans.
Écrivant, non écrivant, parce que c'est une distinction qu'il faut faire.
Oui, alors pour moi, la distinction n'a pas beaucoup de sens. Elle en avait auparavant quand on ne faisait qu'un journal papier. Aujourd'hui, la rédaction a vocation à travailler pour le papier comme pour le site internet. Et c'est vrai que la question de la mise en forme de l'information est tellement importante que cette distinction n'est pas majeure. Mais je dirais qu'il y a... Il doit y avoir à peu près 150 personnes qui ne sont pas écrivantes dans la rédaction. Mais je vous donne ce chiffre au doigt mouillé.
Alors on a commencé à parler du web, ça nous permet de commencer cette séquence sur le web. Il y a donc des différences un peu politiques, des différences de génération, il y a aussi une différence entre le web et le papier. Est-ce que c'est quelque chose qui, on se dit dès qu'on écrit qu'on est plus web ou plus papier, ou est-ce que la différence est peut-être, je ne sais pas, le payant versus le gratuit aujourd'hui?
Je crois que c'est plutôt le gratuit versus le payant. Je vous donne un exemple, on en a parlé tout à l'heure, le reportage de Florence Aubenas, c'est un reportage qui est hors norme par rapport à ce que font beaucoup de journaux. Il s'étale sur 3 pages du Monde, ce qui est considérable, avec un magnifique reportage photo par ailleurs en noir et blanc. La forme ne change pas quand elle est publiée dans le journal et sur le site. On fait un gros travail de mise en scène sur le site et sur les applications pour être dans la même qualité d'environnement que sur le journal papier. En revanche, évidemment, ce reportage est payant parce que c'est un reportage qui suppose du temps d'enquête, qui suppose un talent d'écriture. Florence Aubenas est évidemment largement connue. Elle a travaillé sur des questions sociales depuis des années. Et donc, elle apporte quelque chose qui n'est pas simplement la reprise d'une dépêche d'agence, par exemple, qui sera une information que tout le monde va pouvoir partager sur tous les sites au même instant. Et donc, voilà, la distinction la plus importante, moi, je pense, aujourd'hui, est sur le gratuit et le payant.
Pour bien comprendre, un article un peu rapide, c'est gratuit. Du long format, ce que vous appelez chez vous, on m'a dit les temps longs, souvent, ça termine derrière le paywall, c'est-à-dire c'est payant.
Ça peut être une des distinctions. On va par exemple utiliser les lives dont vous parliez tout à l'heure dans des périodes de très grande actualité, comme pour Strasbourg la semaine dernière, on apprend qu'une fusillade vient d'avoir lieu et que le scénario malheureusement ressemble à celui d'un attentat, ou bien sur des manifestations. On est donc là dans un format qui est gratuit. Ça sera la même chose sur des reprises de dépêches d'agence ou d'informations qui sont instantanément connu de la même façon partout et sur lequel la différence de traitement journalistique ne s'effectue pas immédiatement. En revanche, tout ce qui est approfondissement, analyse, grand reportage, investigation, ça doit relever du journalisme payant aujourd'hui. Et c'est pas juste un débat économique, c'est vraiment une réflexion sur le fait que l'information a un prix, l'information a un coût, l'information a une valeur, et que le mirage du gratuit est non seulement un mirage pour nos modèles économiques, mais c'est une menace démocratique, je pense, beaucoup plus largement.
Puisqu'on parle justement des enjeux économiques, évidemment de la presse, vous êtes vraiment en France le journal Le Quotidien qui a évidemment le mieux réussi le tournant du numérique, en grossissant et en misant sur notamment une augmentation de ses équipes éditoriales. Parlons peut-être d'enquête. Vous avez tout à l'heure évoqué évidemment les Panama Papers, les Paradise Papers, la rédaction du Monde qui n'est pas la seule en l'occurrence à travailler évidemment sur ces papiers. La rédaction du Monde dispose de deux grands enquêteurs extrêmement médiatiques qui s'appellent Gérard Davet et Fabrice Lhomme, qui publient par ailleurs beaucoup d'ouvrages sur le côté. Elle en est où l'enquête au Monde aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a un service enquête en dehors de ces deux personnalités très marquantes dont on peut imaginer qu'ils font que ça? Quels sont les moyens dédiés ou pas? Est-ce que vous avez, vous aussi, peut-être le journal qui va le mieux en France, toujours les moyens de faire de l'enquête?
Oui, plus que jamais. Je pense qu'on a plus de ressources qu'avant et dans la vie d'une rédaction, qui est la vie où des journalistes veulent changer de poste et évoluer, ce qui est vraiment bien et normal. On n'a pas cessé de renforcer l'investigation et l'enquête ces dernières années sous des formes différentes. On a des journalistes qui sont spécialisés sur l'enquête, qui vont travailler sur la France-Afrique, qui vont travailler sur les questions
fiscales. Ce qu'on appelle les grands reporteurs, en fait. Un groupe en plus
On a en fait deux équipes différentes. On a les grands reporters qui, eux, ont vocation
donc,
à faire des
Chemin,
formats
Raphaël
longs,
Baquet, voilà, Florence Benin, etc., Raphaël Rérol.
Qui vont faire du reportage, qui vont faire des enquêtes, mais qui ne sont pas forcément dans la recherche d'exclusivité et de travail, d'investigation sur les pouvoirs, puisque l'investigation, c'est un travail aussi journalistique qui vise tous les pouvoirs, politiques, économiques ou autres. Et donc, ces dernières années, on a pu sortir des informations sur Lafarge, par exemple, le fait que cette entreprise ait eu une attitude en Syrie extrêmement problématique. On a fait des grandes enquêtes ce qu'on a appelé les Monsanto Papers, sur le fait de raconter comment cette entreprise avait tenté d'influencer les sciences.
Mais c'est beaucoup de data journalisme d'ailleurs aujourd'hui. Si on regarde un petit peu les choses que vous avez fait en dehors évidemment de Gérard Davet et de Fabrice Lhomme, il y a beaucoup de data journalisme dans ces cellules, dans ce que vous venez de citer. C'est-à-dire en gros des sommes d'informations où le journal a accès à ces informations, va fouiller, va en extraire des informations alors qu'on est sur de la donnée brute.
C'est le cas des Implant Files qui sont sortis il y a quelques semaines en collaboration notamment avec Radio France, qui est pour le coup là une démarche assez géniale journalistiquement, puisque on s'est rendu compte à travers un consortium international que sur la question des implants, de tout type d'implant, il n'y avait pas d'informations disponibles et il y avait une opacité à l'échelle mondiale qui est assez problématique. Et donc là, collectivement, plusieurs dizaines de journalistes ont travaillé pendant des mois, et parfois comme directeur de la rédaction, je suis pris moi-même dans mes contradictions à avoir envie que certains de ces journalistes aillent
sur d'autres
sujets.
On
arrive à tenir cette longueur et ces journalistes ont pu travailler pendant des mois pour travailler de façon sur des sujets assez arides, des bases de données, des problématiques très juridiques, des questions de conflit d'intérêts, pour à la fin révéler à la société, aux différentes sociétés occidentales concernées, que oui, aujourd'hui, on est face à une opacité organisée par les industriels du secteur et malheureusement avec une forme de complicité des autorités sanitaires.
À travers le secret des affaires aussi, opposé au droit à l'information, vous avez fait un éditorial sur la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs, et qui vous bloque parfois sur ces sujets.
Malheureusement, c'est une des premières applications
de la loi
cette directive
2018,
appliquée maintenant en France sur le secret des affaires, et donc la CADA, cette instance administrative, a opposé une fin de non-recevoir à une demande de notre part.
De la loi de juillet 2018, et donc loi qui contribue à renforcer, selon vous, l'opacité, vous l'écriviez, contraire à la démocratie d'une certaine manière.
C'est extrêmement grave, mais je pense qu'ils ne gagneront pas. On finira bien par trouver
par
ces
les
documents
avoir.
Et à les rendre publics.
Vous avez cité, puisqu'ils ont été cités, le nom de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, une question, vous pouvez utiliser votre joker, vous en avez un ce soir, à ce sujet, Luc Brunner, puisque vous avez eu vous-même le prix, je l'ai dit tout à l'heure, le prix Albert Londres sur la question des jeunes en banlieue. Vous pensez quoi de ce livre sur l'islamisation en France?
Non, j'utilise pas de joker. Écoutez, je trouve que c'est un mauvais livre. Voilà, on n'en a rien fait dans le monde. Je trouve que c'est un livre qui... qui est pas très travaillé. Et voilà, alors c'est peut-être l'erreur initiale, c'est de penser que les jeunes journalistes...
Ils écrivent dans Le Monde.
Oui, voilà. Oui, mais par ailleurs, ils travaillent très bien dans Le Monde et ils sortiront, j'espère, des belles enquêtes, notamment en janvier. J'en discute avec eux. Mais c'est vrai que ce livre, je trouve, est un livre un peu facile sur un sujet qui est vraiment important et sur lequel ils auraient dû élargir vraiment le spectre.
En plus, c'est pas un livre qu'ils ont écrit eux, par ailleurs, faut quand même le rappeler.
Oui, ils ont dirigé un livre de jeunes journalistes. Donc, je veux même pas jeter la pierre aux jeunes journalistes, c'est des étudiants en journalisme.
Inch'Allah, voilà. On dira. Voilà.
France Culture, Soft Power. Frédéric Martel.
19h40 sur France Culture en direct. Je reçois ce soir Luc Brunner, directeur de la rédaction du Monde, dumonde.fr, pour une émission autour de l'état du monde, au moment où le nombre d'abonnés numériques dépasse le nombre d'abonnés papier. Je précise d'ailleurs que cette émission a été prévue depuis plusieurs mois et donc elle n'était pas liée ni aux Gilets jaunes ou à d'autres questions ponctuelles dont on parle ce soir. On va maintenant s'intéresser à plusieurs sujets peut-être un peu différents, mais qui font tous partie de la vie du monde. On a évoqué déjà un certain nombre. Vous avez une équipe à Los Angeles qui prépare notamment ce qu'on appelle la matinale. Comment ça marche et pourquoi cette équipe de journalistes aux États-Unis ?
C'est une très bonne intuition qu'on a eue il y a quelques années. Je crois que c'est Nabil Wakim, qui est un ancien directeur adjoint de la rédaction, qui l'a porté. C'est de jouer sur le décalage horaire. Et au lieu de faire travailler des journalistes à Paris de nuit dans des conditions très difficiles, on s'est dit qu'on pouvait leur proposer de partir à Los Angeles, donc de jouer sur le décalage horaire, d'avoir une vie qui leur correspond à titre personnel.
Oui, ils sont à Malibu.
Alors j'espère qu'ils ne sont pas que
ils promènent sur la plage de Venice.
Je leur dirais que c'est de votre part. Mais.
Voilà.
Et que donc, en fait, c'est blague à part, ça a une vertu pour nous. On sait que la consommation d'informations commence très tôt le matin, à 6h, 7h. On commence à avoir, comme pour les radios d'ailleurs, des audiences importantes. Et donc, il faut à ce moment-là avoir un site qui soit le plus solide possible. Et donc, cette équipe à Los Angeles, qui est une équipe bien encadrée, a la possibilité du coup d'animer le site. Et puis d'autre part, vous l'avez évoqué, nous permet d'inventer tous les jours un monde du matin qu'on a appelé la matinale, qui n'existe que sur application et qui nous donne une première hiérarchie de l'information tous les matins à 7h.
Sur quelle application d'ailleurs? Parce que j'ai découvert, ça prouve que les gens ne le savent pas,
oui,
j'ai découvert qu'il y avait deux applications, une blanche, une noire,
ouais.
Et je ne le savais pas, la plupart des gens ne le savent pas sans doute, c'est vrai d'ailleurs pour le Figaro aussi, qui est un journal qui au passage se porte très bien aussi sur le numérique. Pourquoi deux applications?
Parce que il fallait à ce moment-là inventer un format spécifique et on avait la conviction qu'on pourrait l'installer dans les usages. C'est plutôt le cas. Hein. On a un nombre d'utilisateurs qui ne cesse d'augmenter. Soit qu'ils soient abonnés dans une première
idée,
on voulait des gens qui soient abonnés uniquement à la matinale. Et vu la nature des usages de nos lecteurs qui l'ont plébiscité, on s'est dit qu'il fallait que tous nos abonnés numériques, tous les lecteurs ont accès à cette application à la matinale, mais seuls les abonnés numériques ont accès à l'ensemble des contenus. Et ce qui est pour moi assez génial, c'est qu'on voit que ça répond à une demande, et une demande qui me rassure énormément en tant que journaliste, c'est une demande de hiérarchisation de l'information. Les gens veulent du flux, mais ils veulent surtout maintenant qu'on s'arrête sur l'information et qu'on dise ce qui est très important, ce qui est important, ce qui est un peu moins important, ce qui est parfois anecdotique. On a besoin d'anecdotique et de légèreté dans l'information, mais au moins les choses sont claires.
La presse s'est fait l'écho de la fermeture annoncée pour février, je crois, de deux de vos suppléments. Le supplément Cahier Éco, le supplément aussi Idée. L'économie, ça va devenir 4 pages, dit-on, par jour dans Le Monde, si tant est que d'ailleurs l'actualité le rend possible. Ça faisait partie des grandes nouveautés voulues par les actionnaires, le trio fameux BNP, Berger, Niel, Pigas, et par le directeur Louis Dreyfus. Pourquoi ce changement après?
Alors, c'est une proposition qu'on fait au conseil de surveillance qui a lieu mardi prochain. Donc, on est à ce stade au niveau de la proposition. Y a plusieurs raisons et je suis là très transparent. Il y a une première raison qui est une raison d'économie budgétaire.
Ça fait 1 million d'économies, c'est ça, par
voilà,
an,
un petit
peu près.
Moins, mais c'est autour de ce chiffre-là. Moi, à titre personnel, je préfère faire des économies sur le journal papier.
Donc, sans licenciement
physique,
de ces journalistes.
Plutôt que sur des forces journalistiques. Donc ça, c'est un premier point qui est purement budgétaire, on va dire. Il y a une deuxième raison qui me paraît vraiment importante sur le fond. À trop séparer l'économie de la politique, de la diplomatie, je pense qu'on ne se donne pas les moyens de bien raconter l'immense crise politique des États-Unis, par exemple, et finalement... si je prolonge sur les gilets jaunes, cette remise en cause profonde de la mondialisation sous des formes extrêmement différentes. Donc, éditorialement, se donner la capacité de mieux coordonner dans le journal les sujets économie internationale, politique, je pense qu'on fera un journal qui sera aussi bon, avec une précision importante, on ne baisse pas le volume des contenus, on sera sur 5 pages quotidiennes en économie tous les jours, et donc en fait les économies se jouent notamment sur la une d'un supplément, c'est tout bête, un supplément c'est tous les jours une qui multiplié par 300 éditions et 300 000 exemplaires par jour, il y a un coût lié au papier, donc on fait cette petite économie là pour préserver le modèle plus global. Et il y a une troisième raison qui est importante, c'est que on est dans un mouvement dans lequel il faut qu'on mette plus de ressources, plus d'énergie sur le numérique plutôt que sur le papier. Moi, j'ai envie de lancer des newsletters sur l'économie, j'ai envie de lancer des newsletters sur les débats, et j'ai donc envie que l'énergie disponible de nos journalistes soit moins dans la fabrication du papier, mais de plus en plus sur des objets numériques.
Justement, vous en parlez, je reviens juste sur la nature des journalistes du Monde, tout simplement. Vous avez dit que la moitié de la rédaction est arrivée dans les 10 années qui viennent de s'écouler. Vous dites aussi que la moyenne d'âge est très jeune. Vous avez lancé le Monde Academy il y a quelques années, même plus que ça, 5 ans, je crois, si je ne m'abuse. Qu'est-ce que c'est que ce Monde Academy? Est-ce qu'il y a des jeunes journalistes qui en sortent? Les journalistes que vous recrutez aujourd'hui pour le numérique et pour le reste, déjà, est-ce que vous recrutez surtout des jeunes pour le numérique ou aussi ailleurs? Et ils vont où, tous ces jeunes, et quelle est leur formation? Parce que on le sait très bien aujourd'hui, la question de la formation des journalistes joue un rôle probablement clé dans la crise de confiance et de légitimité de cette profession. On sait aussi qu'au sein des écoles de journalisme, il y a de plus en plus de gens qui viennent essentiellement de Sciences Po. Qu'en est-il chez vous?
Alors, le Monde Academy, c'est une idée qui a été portée par Florence Aubenas au moment où elle a rejoint le Monde, avec la volonté de diversifier les recrutements de journalistes au sein de la rédaction. Donc, ça a été porté fortement pendant 3 ans. Ça a débouché sur des recrutements. On a des journalistes qui sont aujourd'hui en CDI au Monde et qui sont passés par le Monde Academy. Donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant. Après, je vais être honnête sur la question de la diversité.
Il y a encore du travail à faire.
On est encore trop faible. On a réussi à arriver à la parité complète sur les postes de chef entre les hommes et les femmes. C'est un travail d'années et d'années de longue conviction, haleine, ouais. Et notamment pour convaincre des femmes journalistes qu'elles ont la même légitimité que des hommes à devenir chef. Je vous assure,
c'est la question de l'autocensure aussi.
On y arrive. Mais voilà, sur la question de la diversité, on n'est pas encore tout à fait là où on devrait être. On a lancé un programme pour avoir des apprentis, en considérant que l'apprentissage est un levier efficace pour diversifier les profils des journalistes.
Vous étiez un des derniers médias à pas en avoir, parce que quasiment tout le monde en a aujourd'hui.
On parlait des suppléments. Il y a un supplément qui est intéressant, c'est la médecine. Et là, pour le coup, si on compare à celui du Figaro, on a 2 suppléments avec une logique totalement différente. Celui du Monde, on a des très grands noms, des très grandes signatures, des analyses de prix Nobel, etc., qui vous commentent le monde scientifique et la science. Celui du Figaro, c'est du serviciel pur, c'est-à-dire la vie pratique. On vous explique telle maladie, comment ça évolue, comment se soigner, etc. Et on a là presque un résumé un peu de 2 types, en tout cas sur ce supplément, c'est pas vrai sur l'ensemble des pages, où on voit vraiment une sorte d'importance du serviciel au Figaro et secteur, c'est vrai dans la vie pratique comme dans la consommation en général, assez peu bien traité ou assez mal traité au Monde.
Alors effectivement, c'est pas sur le serviciel que le Monde est le meilleur. Je sais pas si c'est là qu'on est le plus attendu par ailleurs, mais c'est pas tout à fait dans la culture de la maison. C'est sans doute une erreur, parce que je pense qu'on pourrait faire du serviciel de bonne qualité. On le fait, hein. On fait des pages sur le qui s'appelle Le Monde Argent, par exemple, sur les questions de finances. On a fait
donc
la semaine
plutôt
dernière...
plutôt l'argent et pas la santé des gens.
Oui, là, c'est un peu facile. On a fait la semaine dernière...
Oui, mais il fallait le faire.
On a fait la semaine dernière, par exemple, un traitement sur le site internet sur les questions climatiques, en se posant la question de comment vous pouvez individuellement, vous, Frédéric Martel ou d'autres, changer vos pratiques pour avoir des effets sur la pollution ou sur le climat. Je considère qu'il y a une dimension pratique. On le fait sur des questions liées à l'enseignement supérieur, par exemple, avec Campus qui a cette fonction-là. Sur le cahier science, on l'appelle d'ailleurs entre nous cahier science. Il s'appelle science et médecine, mais c'est vrai que c'est le premier mot qui reste généralement.
Il y a très peu de médecine dedans. Ouais.
On a une approche qui est d'abord une approche scientifique, de très haut niveau, et on fait ce choix qui est... pour moi un choix important d'être volontairement assez pointu et de considérer que sur cette matière-là, on s'adresse aussi à un public important qui est le public de la recherche et qui pour le Monde est assez décisif.
Sur les pages débat peut-être, parce que vous l'avez dit, le supplément idée donc, pourrait disparaître, mais ces pages débat, elles sont très importantes. Et elles, d'ailleurs, elles ont joué un rôle assez important, notamment pendant l'affaire MeToo, la fameuse tribune Catherine Deneuve, c'était chez vous. Il y en a eu évidemment dans ces grandes, disons, crises ou grands moments, grandes séquences, même si le mot est très laid. Ces pages débat, elles jouent un rôle très important, avec parfois, vous l'avez dit, notamment sur cette fameuse tribune de Catherine Deneuve, co-signée avec toute une foule de gens, une partie de la rédaction qui est en désaccord avec ce que vous publiez. Qui la dirige? Comment se créent les débats?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a un supplément idée qui est dirigé par Julie Clarini et il y a des pages débats...
Qui devrait disparaître voilà. En février 2019.
Le supplément, pas Julie Clarini, merci.
On parlait du supplément.
Le supplément, voilà, il va être intégré dans les pages du premier cahier, comme on dit dans notre jargon. Et donc les pages débats qui sont, elles, dirigées par Nicolas Truong. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a généralement deux pages débats dans le quotidien. À partir de février-mars, on aura trois ou quatre pages.
Elles sont beaucoup lues, ces pages?
Oui. Ouais. Et elles marchent très bien, y compris en recrutement d'abonnés. On a beaucoup de gens qui se décident à devenir abonnés d'un point de vue numérique parce qu'ils veulent lire ces contenus-là.
On me dit d'ailleurs que la tribune de Catherine Deneuve a suscité un grand nombre d'abonnements,
oui,
précisément.
C'est assez spectaculaire, effectivement. C'est un des records de prise d'abonnements dans l'histoire récente. Donc, on va en fait, l'idée sur le supplément idée, c'est plutôt, au lieu d'avoir un rendez-vous hebdomadaire, de considérer que tous les jours, on aura une page débat en plus, puisqu'on passe de 2 à 3 pages dans le...
Est-ce
dans
que...
Le
alors, Catherine Deneuve, c'était...
Juste réponse sur Catherine Deneuve. Oui, c'est une tribune qui a provoqué des débats dans la rédaction avec des journalistes qui étaient non seulement en désaccord sur le fond de cette tribune, ce qui est mon cas. Je trouve que la thèse de cette tribune est en termes d'argumentation assez faible.
Même de style.
Mais qui était aussi en désaccord sur le fait de la publier. Okay. Et là, pour le coup, c'est quelque chose que moi, j'assume parfaitement. On doit, dans nos pages débats, publier des textes avec lesquels on n'est pas en accord. Sinon,
le débat n'existe pas. Alors là, c'était une pétition, enfin c'était un texte collectif. Il y a beaucoup de textes signés par des auteurs souvent importants. Est-ce que vous les rémunérez?
Non.
Pourquoi? Parce que le Washington Post, le New York Times, d'autres le font. Pourquoi? Au moment même où il y a un grand débat au Salon du Livre, au Centre National du Livre, dans les festivals, polémiques qui enflent tous les jours sur la paupérisation des auteurs, les grands journaux internationaux payent, les contributeurs, pas Le Monde.
Non, ça a toujours été le cas. Je pense que ça fait partie aussi de notre mission de donner la parole, de rendre visible. L'immense majorité des intervenants sont des universitaires qui ont par ailleurs une rémunération. On est très rarement sur ce que vous appelez les auteurs de littérature pour lesquels se pose la question de la rémunération de façon assez cruelle.
Il y a les chercheurs qui sont mal payés.
Les chercheurs sont en crise.
Oui, mais ils ont une fonction publique. Ils sont dans une rémunération.
Pourquoi dans ce cas-là les mettre en payant? Souvent, il faut, pour voir ces chroniques qui n'ont pas été rémunérées, elles sont payantes pour le lecteur. Il y a un grand paradoxe. Et du coup, on a Eric Fassin tous les 3 mois, sans vouloir polémiquer ou personnaliser. Mais du coup, beaucoup de gens ne veulent juste pas y publier.
Bah, s'ils pensent qu'aujourd'hui, pour faire d'une information de qualité, seul existe le modèle gratuit, je pense que ça ne tiendra pas.
Non, mais là, ça a été des articles donnés gratuitement, c'est ça
que
je veux
dire.
Oui,
tout à fait. Mais sur lequel, nous, on essaye de défendre un modèle de qualité de l'information, de hiérarchie de l'information, de complexité de l'information, en s'adressant à une population qui est importante. Vous avez tout à l'heure souligné le fait qu'il y avait maintenant plus d'abonnés numériques que d'abonnés et même de ventes en kiosque, on est aujourd'hui au total à 250 000 abonnés. Donc, s'adresser à cette communauté-là, c'est s'adresser à un public qui est déjà très large. C'est pas du tout s'adresser à une poignée de lecteurs dans un coin. Et donc, en les maintenant en abonnés, c'est le fait de défendre ce journalisme qui est un journalisme qui coûte cher et qui suppose d'investir fortement sur les ressources humaines.
En 2019, fin 2019, vous devriez déménager, notamment à Austerlitz. C'est une question, ce soir on ne traite pas les aspects vraiment économiques massifs, puisqu'on l'avait fait en recevant Louis Dreyfus ou Jérôme Fenoglio. On parle plutôt de la rédaction, mais ça va avoir un impact sur la rédaction. C'est des travaux qui ont été retardés pour plein de raisons. On annonce qu'à ce moment-là, un certain nombre de rédacteurs, on dit 51 dans votre rédaction, pourraient être licenciés sous une forme de pré-retraite avec beaucoup d'avantages. Est-ce
non,
que
c'est faux.
C'est un bon moment, le moment du déménagement, pour aussi déménager quelques...
Il n'y a aucun projet de licenciement. licenciement de journalistes, ni au Monde, ni dans le reste du groupe. Ce qui se passe et qui est très différent, c'est que, à la demande des syndicats, est proposé aux journalistes qui le souhaitent, dès lors qu'ils ont l'âge de la retraite et les trimestres requis, s'ils le souhaitent, de partir avec une aide supplémentaire, dont je ne connais même plus le montant à l'instant où je vous parle, qui voilà, mais c'est purement sur la base du volontariat. Simplement, c'est un moment dans lequel, si certains qui ont tous ces éléments-là veulent partir, la possibilité leur est donnée en touchant un chèque supplémentaire. Et donc, le chiffre de 51 vient de nulle part. Voilà, il n'a aucune, il ne correspond à aucun élément factuel.
Si j'ai cité 51, aujourd'hui, c'est qu'il m'a été donné par l'intérieur de la rédaction. Mais de toute façon, c'est pour fin 2019, donc vous avez le temps d'en parler, Zoé.
Peut-être un mot sur, évidemment, le changement. Excusez-moi pour cette voix, sur les changements d'actionnaires chez vous. Comment est-ce que la rédaction vit cette période? On en a beaucoup parlé ces dernières semaines.
Vous faites référence au fait que Mathieu Pillas, qui est un des trois actionnaires d'origine, ait choisi de vendre la moitié de ses actions dans une holding qui est au-dessus du Monde, à Daniel Kretinsky, qui est un industriel tchèque. La première réaction a été de faire du journalisme. C'est-à-dire que d'enquêter.
Sur lui.
Et d'enquêter d'abord en faisant quelque chose que Kretinsky lui-même a regretté, c'est que nous avons sorti l'information que Pigas était en train de vendre une partie de son capital à Kretinsky. Je pense que ni Mathieu Pigas ni Daniel Kretinsky étaient très ravis que le journal sorte cette information. Moi, je suis très fier que la rédaction du Monde, contrairement à ce qui s'est fait dans le passé ou ce qui s'est fait dans d'autres rédactions, ait été, on va dire, agressive sur l'information avec l'idée de publier ce qui était en train de se passer. Le deuxième temps, c'est toujours du journalisme, c'est le fait d'enquêter sur ce personnage qui est extrêmement intéressant, qui est un milliardaire qui a fait fortune il y a plusieurs années, qui aujourd'hui travaille sur les questions d'énergie, notamment sur le charbon. Et donc, de façon approfondie, six journalistes ont travaillé sur Daniel Kretinsky pendant plusieurs semaines, plusieurs mois.
On n'a pas vraiment vu
ses
liens avec Poutine, mais c'est de notoriété.
Ils ne sont pas démontrés.
La question. Ouais.
Alors, en journalisme, on ne peut écrire que ce qui est démontré.
Même via Gazprom, qui l'utilise
pour ses pipelines. Il y a une série de questions qui sont troublantes pour nous. Évidemment, on est extrêmement attentifs.
Elle en est où, la charte d'indépendance que vous aimeriez signer avec lui et qui, pour l'instant, ne l'est pas, je crois?
Alors, c'est le troisième point. Et là, pour le coup, ça n'est plus le directeur de la rédaction qui est aux manettes sur le fond. C'est ce qu'on appelle le pôle d'indépendance, donc qui rassemble les sociétés de personnel, notamment la Société des rédacteurs du Monde, et qui, avec les différents actionnaires, négocie un droit d'agrément, c'est-à-dire la possibilité donnée à tous les actionnaires, dont les journalistes et l'ensemble des personnels,
de dire non. Il faut rappeler effectivement
que
ces sociétés ont des actions.
Voilà, on est actionnaire pour partie du journal, mais la possibilité de dire non si jamais Daniel Kretinsky ou un autre devait monter au capital de façon forte. Donc c'est un verrou qu'on voudrait poser. Les discussions sont en cours, elles prennent du temps parce que c'est des questions juridiques extrêmement complexes, mais on a bon espoir qu'elles aboutissent dans les prochains jours, prochaines semaines.
On annonce la fin de deux postes de correspondants, je crois que c'est le Brésil et l'Inde, des réductions aussi de piges. C'est la même logique, c'est-à-dire plutôt des CDI, essayer de renforcer cette rédaction permanente et peut-être pas ce...
Alors, on est plutôt sur l'idée de faire basculer un poste qui est aujourd'hui au Brésil sur l'Inde. Donc, en considérant qu'aujourd'hui, on a envie de renforcer notre couverture.
Puisqu'il parlait portugais, il peut très bien se débrouiller en
non,
en hindi.
C'est pas la même personne, je vous rassure. Non, mais l'idée que il faut renforcer notre traitement sur l'Asie. Et donc, évidemment, on est plus de 450 journalistes. On ne peut pas accroître la rédaction en permanence, et donc l'idée n'est pas de faire des économies sur les postes de correspondants. Il n'y a aucune économie prévue là-dessus, c'est plutôt de redistribuer nos ressources du Brésil, en l'occurrence probablement vers un poste sur l'Inde.
Pour terminer avec vous, Luc Brunner, vous l'avez dit, à peu près 45 ans, vous n'êtes pas né avec le numérique. Comment est-ce que vous avez vécu, comment vous voyez cette évolution, à savoir d'un journalisme qui est littéralement transformé, pour disrupter, on pourrait dire, par le web? Est-ce que c'est positif avec ces nouveaux formats, ces nouveaux modèles d'écriture, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète chaque jour un peu davantage?
Moi, ça m'inquiète pas en tant que directeur de la rédaction du Monde, où on pratique un journalisme qui nous donne la possibilité de ne pas céder à ce que je décrivais tout à l'heure, être le journalisme des chaînes d'infos en continu, où c'est au fond l'information se résume en un bandeau souvent qui circule sous vos yeux. Je ne suis pas inquiet parce que je pense que le numérique nous permet de toucher des publics beaucoup plus larges que ce qu'est aujourd'hui le journal papier, et donc j'y vois des possibilité vraiment extrêmement intéressante, originale, d'aller multiplier les formats, d'aller toucher les publics différents.
Mais vous êtes heureux de vivre cette période? Vous trouvez qu'elle est créatrice?
Triste. Non, vraiment, j'adore. Je trouve que de piloter à la fois la fabrication d'un journal papier, qui est plus important que jamais, je pense que la forme du journal, la hiérarchie de l'information, a de l'avenir. Alors, qu'ils soient imprimés ou pas, c'est une autre question, mais la hiérarchie de l'information est fondamentale.
On programme le web comme si c'était un quotidien, comme si c'était une radio.
C'est plus proche d'une radio. C'est-à-dire qu'on se pose la question en permanence du moment où le lecteur, via son smartphone ou son ordinateur, sa tablette, sera en contact avec nous. Et donc,
mais en même temps, on sait aussi, s'il est en contact, qu'est-ce qu'il va lire? Qu'est-ce qu'il ne va pas lire? Peut-être que la critique de danse ou d'opéra, je ne vise personne, est peut-être pas très lue. Et surtout, on sait quand il va s'arrêter de lire au milieu d'un article, etc. Ça change tout, non?
Ça change pas tout. Ça nous donne des indications sur les lecteurs. Et par exemple, ce week-end, alors que on croule sous des informations, un des papiers les plus lus, c'est le papier de Florence Obna, qui doit faire 30 000 signes, qui est une sorte d'ovni dans ce que les prophètes du numérique proclamaient il y a quelques années. Il fallait faire court, il fallait faire nerveux, il fallait faire
donc
du
vous
clic.
Vous croyez aux longues
Je crois aux feuilletons, je crois aux enquêtes, je crois aux grands reportages. Et c'est pour ça que le numérique, pour moi, n'est pas inquiétant, au contraire.
Merci infiniment à vous, Luc Brunner. Je rappelle que vous dirigez la rédaction du journal Le Monde. Merci d'avoir été notre invité ce soir pendant une heure complète. Vous pouvez réécouter cet entretien en podcast et vous abonner au podcast de Soft Power, disponible gratuitement sur iTunes, sur la page de Soft Power, sur le site de France Culture, ainsi que désormais sur Spotify et bien sûr sur l'application podcast de votre smartphone. Soft Power dans un instant, ça continue, seconde partie avec à 20h10 le club de la presse numérique. Nous parlerons ce soir du rôle qu'a joué Facebook dans la mobilisation des Gilets jaunes et nous serons pour en débattre avec Séverin Audet et Gilles Fontaine. Et dans un tout petit instant, Zoé Sfès, votre invitée innovation, nous rejoint.
Elle arrive en studio, elle s'appelle Mui Cheng Pech, c'est la directrice à l'éducation au contenu et à l'information de l'ONG Bibliothèques sans frontières.
France Culture, il est 20h passé de 1 minute.
France Culture, Soft Power. L'invité de Zoé Sfès.
Bonsoir, Mui Cheng Pech. Bonsoir, vous venez d'arriver en studio et micro
Zoé.
Est loin de vous. Est-ce que ça va?
Très bien, merci beaucoup.
Très bien.
Bonsoir Zoé, bonsoir Frédéric.
Merci, bonsoir à vous. Vous êtes directrice à l'éducation, au contenu et à l'information dans cette ONG qui s'appelle Bibliothèques sans frontières, qui a été créée en 2007, c'est-à-dire qu'elle a quasiment, elle a presque 12 ans, cette ONG. Et alors, elle porte un nom, Bibliothèques sans frontières, où quand on y pense, on voit des livres dans des avions, pourquoi pas. Mais comment est-ce que vous définiriez l'activité de manière générale, l'ambition de cette ONG, puisque, et d'ailleurs vous le dites sur votre site, les bibliothèques du 21e siècle, c'est pas forcément celle qu'on imagine, ça peut être un Fab Lab, ça peut être un Learning Center, ça peut être beaucoup de choses. C'est quoi, disons, l'état d'esprit général?
Exactement. Pour nous, la bibliothèque, c'est bien plus que quatre murs et des livres poussiéreux à l'intérieur. C'est justement un espace communautaire, d'abord, un espace qui appartient à la communauté locale. En fait, on a, nous, pour mandat, la volonté de porter la connaissance à ceux qui en sont privés, et ça partout dans le monde. Ça veut dire essayer de renforcer la capacité d'agir des populations, et notamment celles qui sont les plus vulnérables, à travers l'accès à l'éducation, l'accès à l'information et l'accès à la culture. Donc, effectivement, la bibliothèque, pour nous, ça peut être un Fab Lab, ça peut être un espace d'apprentissage, un Learning Center, enfin, un centre.
C'est la bibliothèque dans l'acception la plus universelle.
Exactement.
Qu'on puisse en avoir. Alors effectivement, vous avez plusieurs projets très importants et très différents, mais qui sont effectivement destinés à des populations souvent soit isolées ou soit en marge, qui n'ont pas accès à ces fameuses questions. L'une des derniers projets que vous avez lancé, c'était juste à la fin du mois dernier. C'est un projet de formation des bibliothécaires en France, cette fois-ci, des bibliothécaires pour accueillir les migrants. De quoi s'agit-il exactement?
C'est un projet qu'on a lancé à la demande de nos partenaires bibliothécaires en France, qui se retrouvaient confrontés à devoir accueillir des populations qui ne parlaient pas les mêmes langue en bibliothèque. Les populations qui sont en situation de migration et sans toujours savoir comment faire, quels services leur proposer, comment vraiment ouvrir la bibliothèque et aussi mélanger les populations migrantes qui viennent en bibliothèque et les usagers habituels. Et donc on a lancé un parcours de formation en ligne sur une plateforme qui s'appelle BSF Campus, que vous trouvez en ligne, qui est complètement gratuite, complètement accessible à tous et qui a pour vocation comme ça de faire émerger des bonnes pratiques que d'ailleurs les bibliothèques emploient déjà pour accueillir les personnes qui sont en migration dans les bibliothèques.
C'est quoi ces bonnes pratiques justement? justement, parce que vous avez ce savoir-faire, on va y revenir, mais c'est quoi ces bonnes pratiques pour accueillir quand on est un bibliothécaire qui parle français, qui a passé un concours parfois il y a 20 ans?
Écoutez, c'est des exemples parfois extrêmement simples, c'est simplement avoir de la signalétique dans les bonnes langues pour permettre aux gens de se reposer dans la bibliothèque, même si on parle pas toujours la même langue qu'eux. C'est potentiellement proposer des contenus dans les langues dont que parlent les personnes qui viennent en bibliothèque, et c'est aussi ouvrir la bibliothèque vers l'extérieur, c'est-à-dire créer des partenariats éventuellement avec, par exemple, des bénévoles qui viennent faire des cours de français langue étrangère en bibliothèque, et comme ça créer du lien entre ces populations qui ne fréquentent d'habitude pas la bibliothèque et l'écosystème du coin. C'est aussi par là que passe l'intégration, et pour nous la bibliothèque a vraiment un rôle clé à jouer sur ces questions d'immigration et d'intégration.
Alors là évidemment on parle de la France et on parle de villes, parfois même de grandes villes en France, mais vous, vos terrains d'intervention, ils sont plutôt ailleurs en réalité. Vous avez plusieurs, disons champs de compétences, l'urgence après les conflits, et aller dans des endroits où l'information ou peu ou pas disponible. Parmi vos outils, parce que vous en avez plein, il y en a un qui est peut-être probablement le plus célèbre et celui qui fonctionne le mieux, c'est ce qu'on appelle les Idea Box, que vous avez conçu avec le designer Philippe Starr, qui je crois vous a offert la conception de design de ce mini Fab Lab, en fait, je crois que c'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'un Idea Box? Qu'est-ce qu'il y a dedans et où est-ce que vous l'amenez?
Alors, l'Ideas Box, c'est effectivement une médiathèque en kit qui nous permet d'amener la bibliothèque au plus près des populations qui en ont besoin, parce qu'elle n'est pas toujours là où on en a le plus besoin. En fait, l'idée est venue juste après le tremblement de terre en Haïti, où on avait commencé à expérimenter des bibliothèques sous tente avec l'UNICEF et avec des bibliothécaires. Et on s'est rendu compte de l'importance de l'accès à l'information dans ces contextes-là, encore plus que dans n'importe quel contexte. L'accès à l'information, c'est un droit fondamental et c'est finalement le prérequis à la reconstruction de la société, c'est le prérequis à l'expression, à l'utilisation de ces droits de citoyens finalement. Et donc l'Ideas Box, c'est une médiathèque qui tient sur deux palettes et qui, quand elle s'ouvre, crée un espace d'une centaine de mètres carrés qui permet d'accueillir environ 70 personnes à la fois avec tout ce qu'une médiathèque peut offrir. Donc bien sûr des contenus physiques, des livres, des DVD, des jeux de société, etc. Mais aussi du contenu numérique. Et du contenu numérique qu'on essaye d'embarquer en offline dans des contextes où on n'a pas toujours le droit d'avoir accès à Internet, qui est aujourd'hui une des clés de l'information.
Parce qu'effectivement, c'est la chose fondamentale dans cette histoire, c'est que vous le rappelez, effectivement, quand il y a un gros séisme ou quand on est dans un camp de réfugiés, comme il en existe depuis la crise en Syrie, la crise Irak, on pense évidemment à la nourriture, on pense évidemment aux soins médicaux, mais très peu à ce type d'information. Et effectivement, je suis pas sûre que nos auditeurs le sachent, parfois, dans ce type de contexte, on n'a pas Internet parce que la structure ou l'infrastructure est mauvaise. Et parfois, dans beaucoup de camps réfugiés, il n'est pas autorisé, il n'est pas possible d'avoir Internet, c'est interdit.
Exactement. C'est politiquement interdit. Les réfugiés n'ont pas forcément toujours le droit d'avoir accès à Internet, et pourtant, c'est un droit fondamental d'avoir accès à cette information-là. Et donc, des Ideas Box, aujourd'hui, on en a une centaine, à peu près, dans une vingtaine de pays à travers le monde, dans des camps de réfugiés, dans des situations en développement, mais aussi en France, d'ailleurs, où l'idée, c'est d'aller au-devant des populations qui n'ont pas forcément facilement accès à de l'infrastructure culturelle, grâce à cette Ideas Box.
Alors, justement, qu'est-ce que c'est l'Internet offline? Est-ce que vous pouvez essayer de m'expliquer de quoi il s'agit?
Bien sûr. Alors aujourd'hui, il y a plus de 4 milliards de personnes qui n'ont pas encore accès à Internet. Et on a ce grand fantasme de se dire que dans 5 ans, dans 10 ans, tout le monde sera connecté. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Et si on regarde par exemple l'Afrique, il y a 28% de la population seulement qui est connectée à Internet. Et ce chiffre double si on enlève des pays comme l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc, etc. Et donc, on a encore tout un pan de la population qui n'a pas accès à ces contenus-là. Dans un contexte où l'information est de plus en plus nombreuse et où les échanges sont de plus en plus rapides, ce sont des inégalités qu'on est en train de construire avec cet accès disparate à Internet. Et donc, ce qu'on essaye de faire avec l'Internet offline, on est un groupe d'une vingtaine d'organisations qui travaillons à ça, c'est finalement d'amener le potentiel d'Internet en local, là où il n'y a pas accès. Donc, c'est tout bête, on va créer des serveurs, des petits ordinateurs sur lesquels on va charger des contenus, et ces serveurs vont créer un hotspot Wi-Fi, un peu comme si on était connecté à Internet, mais sans Internet.
On est connecté et on a accès à ce qu'il y a déjà dans ces fameux petits systèmes que vous avez conçus. Donc en fait, on a à la fois du contenu, mais on a aussi l'idée finalement d'Internet, la manière dont on circule dessus, qui est parfois très abstraite si on n'y a pas accès. On en parle souvent ici dans SoftPower.
Exactement, et surtout l'intérêt pour nous, c'est non seulement de donner accès à du contenu de qualité, mais c'est aussi de donner accès au potentiel qu'est Internet, en termes notamment d'expression et de contribution. Et ça, c'est clé pour nous, parce que vous me demandiez tout à l'heure, cette Ideas Box, finalement, qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais écoutez, le contenant est toujours standardisé, mais le contenu est toujours adapté aux populations locales. Et ce qui est encore plus important pour nous, c'est de donner les moyens aux gens de s'exprimer, de créer eux-mêmes leur contenu. Et ça, je pense que c'est crucial aujourd'hui.
Ouais, ça, vous le dites souvent, parce que évidemment, on connaît, on a tous eu, quand on va acheter des livres ou quand on va en vendre chez Hubert Jeune, des gens qui vous disent, on prend tous ces livres on va les envoyer en Afrique, on va les envoyer en Asie. Vous le dites, c'est pas forcément la meilleure manière de faire, en fait, parce que on est en train, grâce aux livres, soit de mettre en danger parfois des écosystèmes d'édition locaux qui existent déjà, avec des gens qui essayent d'avoir une économie du livre ou de la culture. Et par ailleurs, les contenus sont pas nécessairement adaptés. Vous travaillez comment là-dessus?
Exactement. C'est exactement ce que vous dites. C'est le fondamental, c'est l'idée sur laquelle BSF a été créé au tout début. C'était cette idée de repenser la dynamique du développement culturel et du don de livres vers les pays du Sud, en disant on a tendance à trop donner ce dont on ne veut pas dans les pays du Nord.
C'est ça.
Et justement, tout l'objectif pour nous, c'est de travailler avec les communautés locales. On travaille toujours avec des partenaires avec qui on va sélectionner ces contenus pour être sûr que ça répond vraiment aux besoins des populations locales. Et puis surtout, on va être très très itératif dans la façon dont on fonctionne. Et le numérique, c'est un vrai levier pour cette itération-là. Justement, et encore plus important, ce qu'on essaye de faire, c'est de stimuler la créativité en local, de donner les moyens aux gens de créer eux-mêmes leur contenu. Et donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de donner des outils, qui est monter des radios communautaires, par exemple, dans les camps de réfugiés, qui est des journaux qui s'écrivent, des livres qui s'écrivent localement, etc. Et que tout ça puisse être partagé.
Justement, par exemple, qu'est-ce que vous vous rendez compte qu'en termes de contenu, de quoi on a besoin dans un camp de réfugiés où vous êtes en partenariat avec le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, je sais pas, par exemple, en Jordanie, ou dans vos actions quand vous êtes, par exemple, en Afrique? Quel est typiquement des exemples peut-être de différences en termes de contenu?
Et bien justement, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que toutes les Ideas Box sont complètement uniques, que ça dépend beaucoup beaucoup de la communauté locale et que surtout on voit évoluer ses besoins au cours du temps. Parce qu'au début, quand on arrive, alors on a souvent des demandes assez classiques finalement, on a besoin d'accès à l'éducation, on veut se former professionnellement et plus on avance, plus les gens deviennent critiques envers les contenus qu'on a mis à disposition. Ah. Ils disent, mais en fait, c'était pas du tout ça qu'on voulait, alors finalement, il faut creuser un tout petit peu plus ça. Et parfois, on a des demandes extrêmement précises. Par exemple, des manuels de mécanique pour réparer sa voiture dans un camp de réfugiés au Burundi, ou alors du contenu psychosocial pour promouvoir le bien-être psychologique des jeunes filles kurdes en Irak, par exemple. Donc c'est extrêmement varié.
Et vous l'avez dit, une dernière question sur cet enjeu de l'offline. En fait, il y a vraiment un enjeu d'égalité, parce que le droit à l'information est un droit fondamental. Et puis surtout, cet Internet, cette grande disparité face à Internet, vous l'avez dit, fait qu'aujourd'hui, en fait, on pense qu'Internet est un outil mondial, mondialisé, avec toute une forme de multiplicité de sources et d'émetteurs. En réalité, c'est pas le cas et c'est un grand enjeu.
Absolument, je pense qu'en plus de ça, la question de la fracture aujourd'hui numérique se fait presque plus sur la question de l'usage que finalement sur la question de l'accès. Et on le voit bien en France, même en France, on a 40% de la population qui est effrayée à l'idée de devoir faire ses démarches en ligne, par exemple. Et donc je pense que là, aujourd'hui, on a un programme qui s'appelle Voyageurs du numérique, qui fait son tour de France un petit peu partout, alors dans les grandes villes, mais surtout dans les zones rurales, dans les petits villages, pour accompagner toutes les populations sur cette prise en main du numérique. Et c'est là où je pense qu'en termes de plaidoyer, on a besoin que les gens se mobilisent autour de nous.
Merci beaucoup, Mui Chengpech. Vous êtes directrice à l'éducation, au contenu et à l'information dans cette ONG, donc Bibliothèque sans frontières, qui est donc une bibliothèque des bibliothèques et bien plus encore. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, Zoé.
France Culture, 20h passées de 11 minutes.
Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
Le club de la presse numérique, comme chaque dimanche, pour terminer cette émission. Et ce soir, nous sommes avec Gilles Fontaine. Bonsoir.
Bonsoir.
De Challenge. Et Séverin Naudet, à la fois blogueur qui intervient régulièrement sur BFM Business, mais aussi ancien conseiller numérique à Matignon et entrepreneur du numérique, comme l'un des dirigeants de la société Amaris. Alors ce soir, on s'intéresse à la question de Facebook et des gilets jaunes. Au lendemain de l'acte 5 de la mobilisation des gilets jaunes qui a eu lieu donc hier, on aimerait comprendre le rôle de Facebook dans ce mouvement. De nombreux groupes ont été créés par des anonymes. Ils s'appellent par exemple La France en colère, Fly Rider Info Blocage ou encore les chaînes locales. On trouve des groupes comme Gilets jaunes Quimper ou Gilets jaunes Montélimar, etc. Un autre groupe essaie de compter les gilets jaunes, par exemple, avec le nombre d'inscrits à ce groupe et donc essayer de faire des évaluations. On pourrait commencer par expliquer comment s'est organisée cette mobilisation des gilets jaunes sur Facebook. Divers groupes relaient les actions physiques, par exemple les blocages, etc., avec des leaders dans chaque groupe, souvent des administrateurs de ces groupes qui sont devenus, pour certains, un petit peu célèbres. Je pense à Maxime Nicole, à Eric Drouet, à Priscilla Ludowski, qui ont été d'ailleurs assez médiatisés. C'est vrai, Naudet, pour commencer.
Je crois que ce que j'ai envie de dire pour commencer, c'est que c'est le syndrome de l'ère dans laquelle on est rentré, c'est qu'il y a des gens qui n'ont plus de relais, qui n'ont pas de porte-parole, les corps intermédiaires traditionnels qu'on connaît, qui étaient les syndicats ou les partis politiques ou
sont affaiblis,
etc., etc., ne sont plus des relais pour eux. Et par ailleurs, ils ont découvert en échangeant, en discutant sur Facebook, que d'autres avaient le même sentiment de déclassement, par exemple, qu'ils pouvaient avoir. Et là où il y avait une forme de honte avant, il y a
de solitude,
il y a un partage, il y a une conversation qui se crée, et en fait on se retrouve avec des revendications communes et un outil extrêmement agile, extrêmement efficace pour diffuser cette conversation, rassembler des gens et se retrouver à un moment ou à un autre dans la rue pour manifester.
Vincent Glade, dans Libération, écrivait tout récemment « Les administrateurs de groupes Facebook, dont les prérogatives ne cessent d'être augmentées par Mark Zuckerberg, dont le patron de Facebook, sont les nouveaux corps intermédiaires prospérant sur les ruines, dit-il, écrit-il, des syndicats, des associations ou des partis politiques. » Gilles Fontaine ?
Alors, moi, je voudrais qu'on remonte un petit peu au début de l'année. On sera peut-être pas tout à fait d'accord avec
Séverin.
Séverin sur l'interprétation des choses, mais il y a un changement dans la stratégie, la politique de Facebook, et notamment de son fameux algorithme faire un petit peu fantasmer nos auditeurs. Il y a toujours cette grande machine genre, qui contrôle tout.
Orwellienne.
Voilà. En tout cas, il y a une vraie stratégie et une vraie démarche, une vraie volonté de Facebook de privilégier depuis le début de l'année. D'ailleurs, Mark Zuckerberg l'avait annoncé un peu à la surprise générale le 11 janvier, où Facebook décide de privilégier, enfin je vais essayer de faire simple et court, mais en gros de privilégier plus la famille et les amis que les commentaires, les informations
venant des marques, des médias ou
voilà,
des personnalités.
Notamment des médias. Ouais. Je préfère qu'on aille directement au but et qu'on parle justement des médias, ce qui fait que on a depuis effectivement le début de l'année la création, on observe la création de ces bulles finalement de
qui ont un immense impact Facebook. Par exemple à travers WhatsApp qui appartient aussi à Facebook.
Exactement.
Dans l'élection présidentielle au Brésil, etc.
Exactement.
Mais comment ça marche concrètement? Et peut-être là on va se tourner vers Séverin Audet. Facebook, c'est un peu complexe quand on le regarde de l'extérieur, même si ça a l'air très simple quand on y est dessus. Il y a à la fois des comptes, ce qu'on a vous et moi, ensuite des pages qui sont plutôt liées à des marques, des personnalités ou des médias qu'on peut avoir aussi, et puis des groupes en l'occurrence. Comment on distingue ces différentes formules Facebook?
Je crois que c'est relativement bien expliqué en fait. Chaque individu a un compte. Ce qu'a fait Facebook au début de l'année, c'est de revenir à son modèle économique de base, c'est-à-dire d'avoir la plus grande audience mondiale. Il y avait une audience qui s'effritait sur certaines verticales, sur certains âges, certaines personnes de la pyramide des âges, et Zuckerberg se reconcentre sur construire une audience forte, donc privilégier les comptes et les groupes qui sont ceux d'individus.
Et beaucoup moins donc les publicités au fond venant des marques, des médias, des joueurs de sport, de foot.
En tout cas, faire en sorte que la publicité soit la plus ciblée possible. Et qu'il n'y ait plus d'audience organique, c'est-à-dire d'audience gratuite pour les marques ou pour toute organisation ou institution qui n'est pas un individu et qui faille payer. Et effectivement, du coup, ça a été présenté par Facebook et par Mark Zuckerberg comme à la fois revenir aux sources et redonner la parole aux gens. Je crois que c'est surtout s'assurer que le modèle économique continue à fonctionner. Et effectivement, ça a un rôle non négligeable dans un sens ou dans un autre dans le débat public. On peut le prendre de deux façons en fait pour moi. On peut dire on est sorti de la société de l'information top-down où l'individu n'a pas le droit à la parole et ça c'est positif et chacun peut avoir une opinion et entamer une conversation avec qui il veut, à qui il souhaite sur n'importe quel sujet et avoir une audience. Et puis on peut le prendre dans l'autre sens, en fait c'est l'utilisation qu'on en fait, et on peut aussi puissent regarder l'utilisation qui sont faites par un certain nombre de puissances étrangères, d'États, de services de renseignement, de manipulation de l'information, etc., etc. C'est une plateforme qui peut servir à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
Gilles Fontaine, est-ce qu'on peut comprendre, à partir de ce grand nombre de groupes, au fond, un peu invisible quand on, contrairement à des émissions médias ou même à des démonstrations de rue, la mauvaise appréciation de la part du gouvernement du fait qu'ils regardaient les gens dans la rue sans se rendre compte qu'en ligne ils étaient plus d'un million et donc le compte officiel des Gilets jaunes n'était pas très fiable.
Alors effectivement, on a un décompte officiel de gens qu'on est, j'allais dire, assez classique, qu'on retrouve de gens qu'on calcule dans la rue, donc 200 000 probablement manifestants dans les premières éditions des manifestations, et puis quelques dizaines de milliers sur le rassemblement d'hier. Par contre, effectivement, sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook, on voit bien que ces groupes ont eu tendance à se multiplier et leurs membres également à grossir de façon importante. Maintenant, est-ce que tous ce million effectivement de membres sur Facebook, dont certains ont rejoint l'un de ces groupes qui fait plus de 300 000 membres, hein, quand même, est-ce que ces gens-là sont sincèrement militants? Est-ce qu'on les a pas vus dans la rue, par exemple? Probablement pas. Par contre, il faut qu'on regarde ce qui va se passer dans un deuxième temps, cette mobilisation, en tout cas sur les réseaux sociaux de ces Gilets jaunes, ne fait que commencer. On voit que certains de ces groupes, aujourd'hui, alors qu'ils étaient publics, c'est-à-dire qu'ils acceptaient un peu tout le monde, quoi, aujourd'hui commencent à se fermer. Donc on peut imaginer que il y a un début de réflexion sur un vrai mouvement plus politique qui est en train de se fermer, parce qu'il faut le rappeler, c'est un mouvement qui est extrêmement disparate au départ, hein, qui mobilise des extrêmes à gauche, à droite, on trouve un petit peu de tout, et qu'à partir du moment où on a réussi, que ces modérateurs ont réussi finalement à fédérer, à réunir au sein d'un même groupe des personnes qui ont un petit peu les mêmes sensibilités, les mêmes envies, les mêmes colères, et ben qu'on ait envie d'en faire quelque chose, notamment sur les prochains scrutins électoraux.
Parce qu'en effet, il y a un groupe qui a ce fameux groupe de la colère des Gilets jaunes, je crois les Gilets jaunes, qui a décidé de passer de groupe public à groupe privé, ce qui veut dire qu'on peut plus partager les
Je suis Gilets jaunes.
Je suis Gilets jaunes, voilà, qui est passé en privé, ce qui a suscité beaucoup de débats d'ailleurs au sein même de la communauté. Il y a eu des postes qui contestaient cette décision. Et effectivement, il y a des groupes différents. Il y a évidemment différents chefs de file. Est-ce qu'on peut imaginer peut-être que ces groupes vont finir par donner lieu à des affinités peut-être différentes au sein même de ce mouvement qui pour le moment est un mouvement très disparate et parfois informe, on l'a dit.
C'est très possible. Alors effectivement, il y a eu, c'est quelque part, c'est un petit peu le réapprentissage de la démocratie. C'est assez intéressant ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que c'était un petit peu le grand n'importe quoi jusqu'à présent. Tout le monde pouvait s'exprimer, tout le monde pouvait poster un peu tout et n'importe quoi. D'ailleurs, il y a eu des excès.
Sans porte-parole.
Voilà, sans porte-parole. Il y en a qui
avec des groupes, avec des chefs quand même très identifiés. Voilà. Le fameux Maxime, j'ai oublié son nom. Qui prend beaucoup la parole sur le groupe qu'il a lui-même créé.
Maxime Nicole.
Voilà.
Ou Priscilla Ludowski, que vous avez cité, voilà. Frédéric.
Et inversement, des groupes où il y a plutôt plusieurs anonymes qui, de manière collégiale, gèrent un groupe. Ça donne pas la même chose.
Alors sur cette question quand même, et là je m'adresse à Séverin Naudet, notre spécialiste, Facebook va pouvoir réutiliser, potentiellement revendre les données obtenues sur l'ensemble des Gilets jaunes, utilisées à des fins politiques. Ces données sont extrêmement précieuses. Comment ça peut se passer, ça?
En fait, Facebook ne revend pas, hein. La manière dont ça fonctionne, c'est qu'il y a une place de marché électronique, marketplace, pardon pour l'anglicisme, à laquelle on se connecte et où on achète l'audience aux enchères en temps réel. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, chaque individu est sur une place de marché avec les données qui correspondent à chaque individu, toutes les données d'intérêt et de ce qu'on est, de sexe, de géographie, etc.
D'âge.
Il faut bien avoir en tête que le niveau de granularité de la donnée, de précision de la donnée sur Facebook permet de faire de l'analyse comportementale prédictive. C'est-à-dire qu'on peut savoir avant que vous ayez décidé vraiment de faire quelque chose que vous allez le faire. C'est une des bases de données.
On sait si vous êtes gilet jaune, voilà.
Oui, et plein d'autres choses.
Même beaucoup plus.
On peut, en fonction du comportement alimentaire d'un individu, de plein de choses, on peut déterminer ce qu'il va faire, ce qu'il a envie de faire. C'est une des bases de données les plus précises au monde aujourd'hui avec Google. Donc oui, les sujets qui sont derrière, dont on n'a pas parlé pour l'instant, c'est le volume, le nombre et l'audience des fake news qui circulent dans ces groupes, qui sont quand même essentiellement alimentés par de fausses informations qui sont souvent étonnamment grotesques quand on les regarde de près et qui pourtant recueillent beaucoup de... J'en rappelle trois juste pour exemple, ce qui amusera probablement nos auditeurs ou pas. Pendant la campagne présidentielle américaine, Hillary Clinton était supposée organiser des orgies avec des mineurs dans une pizzeria à Washington. Pendant la campagne présidentielle brésilienne, le candidat travailliste allait décider que le gouvernement serait propriétaire des enfants à naître et déciderait de leur sexe. Et dernière, pendant les Gilets jaunes, le président de la République n'était pas légalement élu et la Constitution n'avait plus cours en France à cause d'un décret de Manuel Valls en janvier dernier qui créait l'inspection...
Comme si un décret pouvait changer la Constitution. Ouais, bref. Alors ça a été pointé ça assez bien par le journaliste Jules Darmanin qui écrit, je le cite, « Les Gilets jaunes se sont constitués grâce au groupe Facebook. Il est donc logique qu'ils finissent comme des groupes Facebook, mal modéré, pourri par des éléments toxiques et rempli de gens qui ont des visions différentes pour le même groupe. » Sur ça, Gilles Fontaine.
Alors, il y a juste un aspect, effectivement, pour rebondir sur ce que vous dites, que Séverin a évoqué, c'est la manipulation de façon assez massive par des puissances étrangères. Et on l'a vu sur les élections américaines, on l'a vu sur le Brexit, on l'a vu probablement aussi en Italie. Alors, j'ai rencontré Laurent Soli, qui est le patron de Facebook France, cette semaine, et lui assure qu'il n'y a pas eu, comme pour ses précédents épisodes...
Oui, il nie avoir supprimé des contenus,
alors,
par exemple.
Il n'a pas détecté de faux comptes, vous savez, c'est ça qu'on avait mis en avant, justement, sur les précédents épisodes, c'était la création massive de faux comptes.
Donc l'ingérence russe, voilà, sur les réseaux sociaux.
Et pourtant, il y a quand même eu des incidents, enfin, notamment... un qui a été révélé au tout début du mois de décembre, puisque un certain GMDI, je ne sais pas comment ça se prononce, qui était inactif, qui avait un compte, mais qui était inactif depuis 2011, tout d'un coup se remet à poster sur Facebook, et a envoyé des messages appelant à prendre la Bastille. Et il y a quand même près de 100 000 membres qui se sont inscrits à ce groupe, et on se rend compte que ce fameux modérateur qui s'est ranimé tout d'un coup, avait liké notamment un certain Constantin Molofiev, qui se trouve être juste le monsieur propagande de Vladimir Poutine auprès de l'extrême droite en Europe. Donc il y a quand même
le Kremlin qui essaierait d'attiser les mouvements des Gilets jaunes.
Et Facebook a fini par supprimer
via ces groupes, si tant est que tout ça soit confirmé. Peut-être pour terminer sur un peu positivement, sur les formats utilisés par les leaders du mouvement qui sont originaux, dans un souci d'ailleurs d'horizontalité. Il y a énormément de live streaming, par exemple, avec des Gilets jaunes qui parlent face caméra. Les députés En Marche, d'ailleurs, ont essayé de faire pareil pour parler aux Gilets jaunes sans toujours convaincre. Est-ce que vous avez vu l'un et l'autre, pour conclure, des choses innovantes à travers ces utilisations des réseaux sociaux par les Gilets jaunes, Séverin Audet?
Moi, j'ai pas vu, peut-être que je l'ai raté, mais j'ai pas vu de format particulièrement innovant ou plus que ceux qu'on utilisait jusque-là. Mais par contre, ce qui est criant et malheureusement ce qui est une réalité qui dure maintenant depuis un certain nombre d'années et qu'on est un certain nombre à dénoncer depuis un certain nombre d'années, c'est l'inadéquation totale entre de notre classe politique à la société de l'information dans laquelle on vit. Et en fait, ça devient très grave parce que là où hier il y avait une déconnexion et une incompréhension de nouveaux usages, en réalité maintenant ça a des conséquences sur la vie de la cité, ça a des conséquences sur la vie du pays et sur la démocratie. Et on voit bien que les partis politiques traditionnels, les syndicats, enfin bref, tous ceux qui ont un rôle ne savent pas du tout comment s'adapter à ces nouveaux usages.
Gilles Fontaine, pour conclure.
J'allais dire la presse également. Et ce qui est assez intéressant, c'est que justement, l'équipe de Macron était plutôt en pointe hein, là-dessus. Ils ont quand même
ils
un peu gagné
l'élection là-dessus. Ils étaient moins mauvais
que les autres, Gilles, on va dire. Certains étaient
moins mauvais que les autres, dit Séverin Audet.
Ils ont évité justement la grosse campagne de fake news qui était en préparation contre Emmanuel Macron pendant la campagne.
On en reste là, pardon, pour ce soir. Merci infiniment à Gilles Fontaine de Challenge et Séverin Audet, blogueur, ancien conseiller numérique à Matignon, entrepreneur du numérique et l'un des dirigeants de la société Amaris. Pour aller plus loin sur ces questions, vous pouvez retrouver les informations sur notre page, sur le site de France Culture. Vous pouvez également vous abonner au podcast de Soft Power sur le site de France Culture, sur iTunes, sur Spotify et sur l'application de votre smartphone. Dimanche prochain, nous parlerons de Léonard de Vinci, le soft power de Léonard de Vinci. Dans un instant, vous retrouvez Carbone 14, magazine de l'archéologie de Vincent Charpentier. J'ai encore le temps de vous signaler que Jean Pisani-Ferry sera l'invité demain des matins de France Culture. Bonsoir, Zoé Sfez.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous.
À dimanche prochain, en attendant, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end.